grand bonjour de Mississauga. Nous sommes dans la banlieue de Toronto, en Ontario, au Canada, et c'est là que se trouve le bureau régional de l'œuvre du monde de demain. Et j'ai le privilège d'effectuer une visite en ce moment, juste après la conférence ministérielle qui a eu lieu à Charlotte la semaine dernière. Alors j'en profite pour saluer au passage un tout petit nombre de personnes qui travaillent ici, mais qui font un travail de fourmi. Et ils sont aidés de temps en temps par des bénévoles. Et ce matin, j'ai eu le privilège de participer à ces travaux. Et ce bureau dessert en même temps l'œuvre du Canada, l'œuvre francophone et hispanophone. Et un grand merci à ces frères canadiens qui font tout ce travail. Alors, je profite de ce passage pour enregistrer ici donc un sermon qui s'intitule « Le sel de la terre ». C'est un sermon qui est très largement basé et inspiré par un article écrit en février 82 dans le « Good News ». Alors, bien que nous sachions qui nous sommes et quel est le but de notre existence, il se pourrait, je dis bien, il se pourrait que nous soyons parfois mal à l'aise dans nos peaux et que nous ayons du mal à nous situer dans le grand plan de Dieu. Nous arrive-t-il de nous sentir insignifiants, inutiles aux autres et à nous-mêmes? Un chrétien ne devrait pas avoir cette crise d'identité, ce genre de crise d'identité. Nous avons été rachetés à un grand prix et nous venons de célébrer la Pâque qui commémore entre autres ce rachat. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés, à savoir Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Ce mot Rédempteur vient du latin rédemptio qui veut dire rachat, lui-même issu, dérivé du moins de rédimere qui veut dire racheter. Jésus-Christ nous utilise pour son œuvre dans la mesure où nous le lui permettons. Il ne travaillera pas avec ceux qui n'ont pas envie de travailler avec lui. Reportez-vous à la parabole des mines et des talents pour voir comment on peut expliquer cela. Mais je vais aller plus profondément dans mon sujet. Le Christ nous dit dans sa parole exactement qui nous sommes et ce que nous avons à faire à cette époque. Pour le voir, nous allons aller dans Matthieu 5, au verset 13, le fameux sermon sur la montagne. Et après avoir pris ses disciples et les avoir appelés à l'écart, il leur donne une recette en quelque sorte pour être heureux, pour vivre la vie de chrétien que nous devons vivre. Mais à la fin de cette énumération, au verset 13, Matthieu 5 au verset 13, il leur annonce d'emblée, vous êtes le sel de la terre. Que veut dire le Christ par vous êtes le sel de la terre? Pourquoi utiliser symboliquement ce condiment commun? Que peut nous apprendre le sel sur notre appel en tant que chrétien? Le sel a plusieurs qualités spécifiques qui peuvent nous montrer comment fonctionner en tant que chrétien, ou pour employer une expression très à la mode, comment fonctionner en mode chrétien. Le premier point que nous verrons avec le sel, c'est qu'il est utilisé avec parcimonie. Alors, il faut savoir que le sel se trouve généralement dans la nature. On lui décompte environ 14 000 utilisations, mais seulement 3% du sel utilisé mondialement l'est utilisé de façon domestique, comme vous et moi tous les jours. Pensez à la toute petite quantité de sel que vous utiliserez pour assaisonner un plat. Juste un peu. Trop, ça n'irait pas, mais vraiment juste un peu. Et c'est ces quelques grains qui font la différence. Alors, pour vous donner une notion de ce que c'est qu'un grain de sel, il y a quelqu'un qui s'est amusé à compter un petit peu, travailler avec le sel fin, celui qu'on trouve plus facilement dans le commerce. Savez-vous combien pèse un grain de sel? Quelqu'un a trouvé qu'il faisait 85,71 microgrammes. Autrement dit, il faut dans un gramme, on trouve dans un gramme 11667 grains de sel. La femme de Lot. On connaît un peu l'histoire de la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel. J'ai demandé à mon épouse, on peut dire qu'une femme pèse 60 kilos sans la vexer? Elle m'a dit oui. Donc, en partant sur ce principe de 60 kilos, la femme de Lot représenterait 700 35 001 grains. Et à raison d'un grain par seconde, il nous faudrait plus de 22 ans, samedi, dimanche compris, pour compter ces grains de sel. À l'époque du Christ, le sel n'était pas aussi courant que maintenant. Nous allons à l'épicerie du coin et nous trouvons facilement du sel. Mais à l'époque, ça avait vraiment beaucoup plus d'importance, plus de portée, ce qu'il disait quand il disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre ». Il était autrefois si précieux, le sel, qu'il était utilisé pour payer les salaires des soldats romains. On va y revenir tout à l'heure. Le mot salaire même vient de cette ancienne pratique de payer avec du sel. L'étymologie du mot salaire vient du latin sal. Et on nous dit, d'après une recherche, qu'il était très important pour les Romains comme pour les autres peuples, car il était indispensable pour l'alimentation humaine, la conservation des aliments et pour le bétail. Et oui, le bétail, même nos herbivores aiment le sel. On leur donne des blocs à lécher qui sont à base de sel hein, dans les élevages. Celui qui veut vendre bien un animal, notamment un mouton ou un bœuf, il lui donne à boire de l'eau salée, ce qui va attiser son appétit. Après, il le lâche et cet animal va bien manger pour déjà passer le goût du sel, mais aussi parce que le sel ouvre l'appétit, il aiguise l'appétit. On connaît tous aussi le supplice de la chèvre, où je crois qu'il était utilisé par les Chinois. En tout cas, ce supplice consiste à attacher quelqu'un, à lui saupoudrer du sel sous la plante des pieds et à faire lécher par une chèvre. Et là, on obtient automatiquement des aveux parce qu'on peut en mourir tellement on rit et ça devient vraiment maladif à ce niveau-là. On peut aussi augmenter l'appétence du foin concernant les animaux quand c'est l'hiver ou quand c'est la saison sèche. Quand le foin n'est pas de bonne qualité, il suffit de saupoudrer un peu de sel sur le foin et ça augmente son appétence. La production et la commercialisation étaient d'ailleurs organisées par l'État afin d'éviter la spéculation et la pénurie, un peu comme le pétrole de nos jours. Vous voyez l'importance du sel à l'époque du Christ. Et de véritables infrastructures commerciales étaient mises en place pour le sel. Il a d'ailleurs servi de monnaie d'échange à différentes occasions dans l'Antiquité. Acheter et vendre des esclaves, par exemple, c'était une monnaie. Le mot salarium désignait à l'origine la ration de sel fourni aux soldats, puis il désignait l'indemnité en argent versée pour acheter le sel. Donc au début, on leur donnait du sel en quantité, mais ça devenait lourd à porter certainement ou ce n'était pas pratique. Donc on leur donnait un équivalent en argent pour qu'ils puissent en racheter parce que c'était vraiment nécessaire à la vie à ce niveau-là. Et ce salarium a donné, ce terme a donné salaire. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les langues romanes, en français, en espagnol, en catalan, en roumain même. On retrouve toujours cette racine. Et même en anglais, le mot français salaire a donné salary. Et on ne serait pas surpris puisque 40% des mots anglais viennent du français. Le sel a été utilisé comme moyen de paiement, je disais tout à l'heure, pour l'achat et vente des esclaves. Et à l'époque du Christ, on comprend maintenant avec ce contexte économique et social, on va dire, l'importance que prenait cette phrase du Christ quand il soulignait la valeur et la rareté du sel en disant à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Quand il les appelle sel de la terre, il les sensibilise sur leur appel, tout comme nous aujourd'hui. Car Dieu n'appelle pas tout le monde en ce moment. Vous allez revoir dans vos Bibles Jean 6, 44 et Jean 6, 65, où il dit que seuls ceux que Dieu appelle viennent à lui à ce moment. Dieu travaille seulement avec un tout petit groupe qu'il appelle son petit troupeau dans Luc 12, 32 pour faire un travail spécifique, la prédication de l'évangile, de la venue du royaume de Dieu dans le monde entier en tant que témoignage pour toutes les nations. Je vous ai cité Matthieu 24, 14. Et nous savons que Dieu n'appelle pas en ce moment tout le monde. 1 Pierre 2, 12 nous dit que plus tard il visitera les païens. En d'autres termes, les vrais chrétiens en ce moment sont rares. Le vrai peuple de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu réside, est beaucoup moins nombreux que ce que le monde chrétien, entre guillemets, pense généralement. Les vrais chrétiens, ils sont éparpillés, saupoudrés, un peu comme on a vu tout à l'heure avec le sel qu'on utilise avec parcimonie sous les plats. Et ça, j'ai pu le constater à la conférence ministérielle, où on voit vraiment tous ces serviteurs, quand on entend leurs rapports, les rapports des directeurs régionaux, nous voyons exactement comment Dieu travaille dans des lieux, mais vraiment retirés, dans des lieux avec peu de personnes, mais son travail se fait. Annoncer cette bonne nouvelle du retour de Christ ici-bas, ce travail se fait avec le peu de personnes que nous sommes. Le sel est utilisé avec parcimonie, exactement comme Dieu utilise ses serviteurs en ce moment. Nous sommes éparpillés, saupoudrés, mais quelle différence, exactement comme le travail que fait le sel sur votre plat. Rien n'a de goût sans sel. Toutes les saveurs sont dans le sel, nous dit-on. un historien penseur nommé Plutarque, qui a vécu de 46 à 125 après Jésus-Christ, disait déjà à l'époque que le sel est un aliment qui rend agréable une nourriture qui, sans lui, ne serait que nécessaire. Ça veut dire qu'on mangerait simplement pour survivre, mais qu'il n'y aurait aucune saveur dans ces aliments. Ce serait carrément juste pour se soutenir, pour manger. Nous allons passer à une petite page de gastronomie et de santé pour mieux comprendre ce qu'est le sel, une petite page scientifique. On nous dit que les saveurs salées font... La saveur salée fait partie des quatre saveurs que nous connaissons, sucrée, salée, acide, amère. Et que ce sont les papilles gustatives situées sur le côté de la langue qui servent de récepteurs à cette saveur. Et le sodium que contient le sel est considéré comme un exhausteur de goût. C'est ce qui attise l'appétit, c'est ce qui va agir comme un neurotransmetteur des saveurs et qui va ouvrir notre appétit, nous donner envie de manger. Aucun aliment au monde, on l'appelle aliment, nous on l'appelle condiment en ce moment, mais à l'époque ça s'appelait un aliment en quelque sorte, quand on a vu son importance. Aucun aliment, aucun condiment ne possède la valeur et l'universalité que le sel. Aucun aliment n'a cette universalité. On nous dit qu'il est depuis des milliers d'années un ingrédient indispensable de l'alimentation de l'ensemble des populations de la Terre. Et encore de nos jours, on a certainement vu des reportages où on nous montre des caravanes, par exemple au Mali, où ils continuent à sillonner le désert, ramenant ce qu'ils produisent au fin fond du désert vers la côte et ramener à ce moment-là le sel qui leur servira pendant toute l'année à venir pour préparer leurs aliments. Nous savons aussi que ce sel est lié aussi à la purification, à la conservation des aliments, mais nous allons rentrer dans tout cela dans le détail. On l'appelle aliment, mais il n'est ni aliment ni aromate, mais c'est un minéral composé simplement de chlore et de sodium, deux molécules qui individuellement nous seraient fatales et nocives, on va dire. Mais cependant, grâce à la chimie et à la merveille de notre Dieu, en les combinant, nous avons cet élément indispensable que nous savourons quotidiennement avec nos repas. Le sel est responsable de la rétention des liquides, donc il permet l'hydratation, et des minéraux. Il est absolument nécessaire à notre survie. Il n'existait pas une, mais deux variétés de sel. Le sel marin, quand nous allons sortir des marais salants, quand on sort de la plage par exemple, on a tout de suite le sel qui a séché sur notre peau. Et aussi du sel gemme, autrement dit du sel de carrière qu'on trouve dans les rocs montagneux. Mais tous deux viennent quand même d'eau de mer, c'est qu'avec les mouvements des terrains et tout, l'eau salée qui a été restée emprisonnée a séché et a donné ce genre de sel. Il exalte le goût des aliments, il favorise la sécrétion des sucs digestifs, augmente la salivation et donc l'appétit. On nous dit que le sel gemme, de nature plus sèche, fut longtemps utilisé pour ses vertus thérapeutiques également. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut aussi composer quelques remèdes avec le sel. Ils deviennent nuisibles, bien sûr, si on en abuse. Si on en prend en trop grande quantité, comme tout, cela peut nuire à la santé. Parce qu'il va provoquer au fil des ans un durcissement des parois artérielles responsables de l'hypertension. Les quelques remèdes qu'on peut faire avec le sel, prévenir les maux de gorge, augmenter l'appétit, stabiliser ou renouveler son énergie. On nous dit que l'idéal pour cela est d'aller prendre un bon bain de mer aux Antilles. Venez en Martinique et vous verrez. Mais tout d'abord, à quoi sert l'acidité dans l'estomac? Pourquoi nous dit-on que le sel est indispensable à notre vie et à notre survie? L'acide chlorhydrique, est le sucre digestif qui permet la décomposition des protéines que nous ingurgitons, la viande, etc. Dès leur arrivée dans l'estomac, ils sont préparés à être assimilés. Si vous manquez d'acide chlorhydrique, vous ne pouvez pas correctement digérer les protéines de votre organisme et votre organisme, pardon, n'en profite pas. Et d'où vient cet acide chlorhydrique? Nous avons vu que le sel, c'était du sodium et du chlore, NaCl en chimie. L'acide chlorhydrique, c'est HCl et c'est ce même Cl qu'apporte le sel qui est analysé par l'organisme, qui est emmagasiné du moins et qui est transformé, qui est jumelé avec des atomes d'hydrogène pour devenir cet acide chlorhydrique. Mais je suis sûr que si vous prenez un verre d'acide chlorhydrique comme apéritif, ça n'irait pas. Ça encore, ça c'est les merveilles de notre Dieu qui nous a créés avec toute cette chimie intérieure. Et cela nous permet donc de digérer, de profiter des aliments l'acide chlorhydrique va les décomposer et va permettre leur assimilation par notre organisme. Donc le sel est l'ami de notre estomac. C'est pourquoi il nous faut prendre suffisamment en quantité, sans exagérer, du sel dans nos aliments pour pouvoir renouveler cet acide chlorhydrique qui nous sera nécessaire à la bonne digestion. Donc une chose que nous pouvons apprendre de la métaphore du Christ avec le sel, c'est que notre appel et notre mission sont uniques, importants et précieux, tout comme le sel est pour notre organisme. Il s'agit d'une occasion rare, mais vraiment rare, d'être appelé par Dieu actuellement. C'est un privilège, je dirais. Un autre aspect que nous verrons aussi, c'est la pureté du sel. En plus d'être utilisé avec parcimonie, le sel, lui, il est pur. Les germes ne peuvent y vivre. Si vous mettez du sel en quelque part, les germes ne vont pas se développer dans le sel. L'analogie spirituelle, elle est tout à fait claire. Le peuple de Dieu doit être un peuple pur, un peuple qui se purifie. Car nous savons que tant que nous sommes humains, nous serons encore pécheurs et nous ne serons pas entièrement purs. Mais nous avons ce cheminement vers la purification et nous devons nous purifier en permanence. Selon Lévitique 2 au verset 13 que nous allons voir, Lévitique 2 au verset 13, « Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Aujourd'hui, les chrétiens doivent se présenter eux-mêmes comme sacrifices. À l'époque, c'était pour les sacrifices. Romains 12, 1 nous dit que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Nous devons, en tant que sel de la terre, être aussi purs que cela, puisque nous avons vu que le sel était versé sur les offrandes de l'époque. Si nous sommes purs, le travail que nous faisons est droit, il est correct. Allons dans Proverbe 21. Proverbe 21, au verset 8. Proverbe 21, verset 8, et là je vais prendre la version Darby parce qu'elle est plus explicite que la version Second. Proverbe 21, verset 8, il nous est dit, « La voix d'un homme coupable est détournée, mais l'œuvre de celui qui est pur est droite. » Version Darby, nous voyons que l'œuvre de celui qui est pur est droite. Le travail que nous faisons doit être pur et droit. Passons la parole à l'apôtre Paul. Allons dans 1 Timothée 1, au verset 5, où nous allons voir qu'il nous parle aussi de pureté. 1 Timothée 1, au verset 5, juste pour l'intelligence du verset, il nous est dit, « Le but de cette recommandation est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, d'un cœur pur. » Et plus loin, il nous dit, 1 Timothée 3, 9, nous sommes déjà là, il suffit de tourner la page. On va prendre pour l'intelligence au verset 8, il nous dit, « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi, dans une conscience pure. » Une conscience pure, on a vu un cœur pur, une conscience pure. Et Philippiens aussi, Paul qui nous donne tous ses arguments, au Philippiens 4, au verset 8, il nous dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, soit que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. » Nos pensées aussi doivent être pures. Notre travail, nos pensées, nos cœurs, nos consciences. En résumé, c'est Jacques qui nous le donne. Allons dans Jacques 1, verset 27. Où il nous a dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, mais surtout à se préserver des souillures du monde. Être spirituellement pur, être préservé des souillures du monde, être spirituellement pur, signifie ne pas être altéré par ce monde, par sa ou ses philosophies, sa façon de faire les affaires, ses mauvaises activités et ses désirs. Si nous sommes constamment repentants, Si nous nous efforçons de vivre à la manière de Dieu, nous sommes lavés de nos impuretés. Et c'est Jean 1, 1 Jean 1 au verset 7 qui nous le dit, que Jésus nous purifie de tout péché. Nous avons besoin de cette purification et le sel symbolise cette purification. Après tout, nous avons parlé tout à l'heure de Matthieu 5. Une des premières déclarations qu'il a faites à ses disciples, Matthieu 5 au verset 8, il leur dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Et tout de suite après, ce que nous voyons, il dit « Car ils verront Dieu ». Ça, c'est vraiment cause à effet. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». On ne peut pas faire ni dire plus simple. Le cœur pur, le chrétien qui se purifie, qui cherche à se purifier tout au long de sa vie, parce que nous savons, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des hauts et des bas, ce chrétien, en se purifiant, se prépare à rencontrer Dieu à ce niveau-là. Une autre des qualités du sel, c'est sa sapidité. Nous avons vu tout à l'heure ce que disait M. Plutarque. Je rappelle que le sel est un aliment qui rend agréable une nourriture qui, sans lui, ne serait que nécessaire. Mais la Bible en parle aussi de la sapidité du sel. Allons dans Job. Job nous fait une très belle remarque. Job 6, au verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Il y a-t-il de la saveur dans un blanc d'œuf? Vous voyez qu'il avait quand même une certaine, au milieu de ses épreuves, il avait quand même de la philosophie, comme on dit, il avait une certaine clarté d'esprit en parlant de ça. Le sel alors symbolise aussi une épice, un arôme, une saveur. Si notre vie est fastidieuse, si on la ressent comme un lourd fardeau, si c'est quelque chose de fade ou sans intérêt, cela ne devrait pas être le cas. Le sel de la terre, ce que doit être un chrétien, sa vie ne doit pas être fade à ce moment-là. Tout comme le sel ajoute une merveilleuse dimension pour le goût des aliments, la vie chrétienne doit être remplie d'intérêt, d'énergie, d'espoir et d'enthousiasme. Allons voir ce que nous déclarait David, et nous connaissons la vie de David. Nous savons qu'elle était vraiment très tumultueuse, mais dans le psaume 5, au verset 11 ou 12, selon les versions, il dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » En un verset, il nous parle d'allégresse, de joie et de se réjouir. En un verset. Allons aussi au verset 63, au chapitre 63, au verset 5 ou 6, toujours dépendant des versions. Psaume 63, au verset 5. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. On parlait de culinaire tout à l'heure, de repas. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Des cris de joie, pas de la joie comme ça, mais vraiment des cris de joie sur les lèvres, David dit. David était constamment joyeux. Il chantait des psaumes et des louanges à Dieu. Et nous, dans notre livre de Cantiques à l'Église, nous avons le psaume 81. Je veux juste vous donner... Vous pouvez les chanter. J'espère que vous avez tous des CD gravés à la maison qui vous permettent d'écouter cette musique et de chanter, d'entonner les cantiques, notamment le vendredi soir au moment du coucher du soleil pour se préparer pour le sabbat ou quand on est un petit peu out, quand on est un petit peu fatigué, pour se redonner de l'énergie. Psaume 81, verset 1, et il nous dit « Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers Dieu, le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. » Vous voyez que David, lui, il était vraiment à l'aise avec ça. Malgré ses épreuves, malgré sa vie tumultueuse, il avait quand même beaucoup de temps pour chanter à Dieu. Il prenait ce temps et je pense que c'était pendant le sabbat. Psaume 95, en plus, au verset 1. Et nous avons ces deux cantiques, le 81 et le 95, dans nos livres de cantiques. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, il dit. Allons devant lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Ça nous donne le tempo de la vie chrétienne. Malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés, nous devrions absolument être heureux d'être chrétiens, vraiment être avoir cette saveur de vie, cette joie de vivre, ce goût de vivre, sachant ce que nous sommes et où nous allons. L'apôtre Paul lui-même, lui aussi, il a eu une vie plus que difficile. Après avoir persécuté l'Église, il s'est retrouvé serviteur de Dieu pour développer cette Église, notamment dans le monde païen, ce qui n'était pas du tout donné. Voyons ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 7, au verset 4. Il dit, « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions ou de toutes nos tribulations, selon les versions. » Vous voyez que l'apôtre Paul lui-même, qui se disait le moindre des apôtres, qui avait des soucis, notamment avec les Corinthiens, ce qu'on retrouve dans le livre de 1 Corinthiens 5, eh bien, il disait, « J'ai confiance en vous, malgré ça. » Et en plus, on voit que c'est un travail commun. Ce n'est pas l'apôtre qui parle simplement, mais il dit nos afflictions à ce moment-là. Il dit qu'il est comblé de joie au milieu des afflictions parce qu'il sait pourquoi il est affligé, il sait pourquoi où il va avec cette foi et cette joie de connaître le Christ. La joie, après tout, Galates 5, 22, c'est un fruit de l'esprit. Donc si nous endurons notre vie, si nous la subissons, si nous ne profitons pas de la vie en tant que chrétiens, nous devons demander à Dieu plus de son esprit et faire en sorte de le recevoir et de le développer, cet esprit de Dieu. Car vous savez qu'il nous donne son esprit, mais nous devons porter des fruits. Nous devons absolument continuer, ne pas attrister son esprit saint. Donc nous savons que nous pouvons perdre son esprit saint. Donc nous devons tout faire pour garder ce contact avec Dieu et avoir plus de son esprit pour développer cette joie qui est un des fruits de l'esprit. Galates 5, 22, voyez aussi tous les autres fruits de l'esprit. Développons donc nos talents, soyons aussi actifs que possible. Bien sûr, ça dépendra de nos conditions sociales, de notre santé, de notre âge, de nos conditions de vie. Mais nous devrions être actifs, ne pas baisser les bras. Tant qu'il y a de la vie, dit-on, il y a de l'espoir. Et en communion avec nos frères, souvenez-vous que Paul parlait de nos afflictions, qu'il était plein de joie au milieu de cette tribulation commune. Donc, Dieu nous demande de partager les joies et les peines entre frères et sœurs, et ça aussi, ça fait partie de notre carte d'identité de chrétien. Vous savez, à l'époque que ça se faisait, on avait sur les cartes d'identité des signes distinctifs, en France en tout cas. Et là, ça pouvait être signe ou œil ceci. Donc, on avait des signes distinctifs. Et là, sur la carte d'identité du chrétien, on devrait avoir écrit celle de la terre. Et ça, avec une vie débordante. En tant que peuple de Dieu, il devrait faire bon vivre autour de nous, à nos côtés. Dans la famille, dans le voisinage, on devrait avoir vraiment du plaisir à être à côté de nous. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais nous devrions être un sujet de joie, même pour les autres aussi. En tant que celle de la terre, nous devrions être les personnes les plus talentueuses, les plus positives, les plus compétentes, les plus éclairées, sans être des docteurs ou des médecins ou tout ce qu'on veut, mais les plus éclairées au fait de l'actualité. Nous savons que le Christ nous demande de veiller et de prier. Nous savons que les choses politiques tournent autour de nous. Avoir l'œil sur la Bible et l'œil sur ce qui se passe dans le monde. Et vraiment, nous devrions être ce genre de chrétiens, ce genre de personnes. Et tout comme le sel donne un zeste à la nourriture, nous devrions aussi avoir un zeste puissant pour la vie. Parce que nous savons quel est notre but, je l'ai dit tout à l'heure, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y accéder, tout ce que nous pouvons pour accomplir cette mission qui nous a été confiée. Un autre aspect du sel, c'est d'altérer, pas dans le sens de défaire, mais altérer en donnant soif, en causant la soif. Si vous avez mangé quelque chose de très salé, vous allez tout de suite chercher à vous désaltérer un petit peu ou un peu après, parce que le goût et l'effet perdurent un peu dans la bouche. Et même des fois, en ayant mangé très salé le soir, le lendemain matin, on a la bouche qui cherche un peu à se rafraîchir avec de l'eau. En tant que chrétiens, donc, nous devrions être un bon exemple pour le monde qui nous entoure. Nous devons, en quelque sorte, leur donner soif de la chrétienté. Nos voisins, nos collègues, nos amis, nos parents qui ne sont pas avec nous dans l'Église, notre prochain en général. Et nous devons annoncer par notre attitude cette bonne nouvelle du royaume à venir. Nous devons être brillant en quelque sorte, nous devons émaner cette lumière, nous devons créer cette soif en quelque sorte du gouvernement à venir de Dieu ici-bas. Ce faisant, Comme le sel physique cause la soif, nous produisons et nous devrions produire chez ceux qui nous entourent cette soif spirituelle. Bien sûr, ce n'est pas évident, tout le monde n'est pas appelé, comme je disais, mais au moins, comme il est dit dans un passage, le jour où Dieu les visitera, même ceux qui vous critiquent maintenant comprendront. Et c'est là l'importance de la chose. Déjà dans Matthieu 5 aussi, ou dans même, ce même chapitre de Matthieu, où il, dans le sermon sur la montagne, après avoir dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », au verset 16, il leur dit « Les gens voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Qui est dans les cieux. Être un exemple, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Nous devons nous y appliquer. Monsieur Ames a écrit un article intitulé « La puissance de l'exemple ». On le trouve en tiré à part. C'est le F-128 sur le site Monde de Demain, ou si vous le désirez, vous le demandez à vos ministres, à vos anciens, et ils vous en feront une copie. La puissance de l'exemple, c'est vraiment un article à lire et à relire pour prendre vraiment conscience de ce qu'est l'exemple que nous devons donner. Allons voir comment Ésaïe nous confirme ce besoin d'être un exemple, ou du moins les effets que produiront les exemples que nous laissons. Allons dans Ésaïe 2, au verset 3. Au verset 2, il nous dit, il arrivera du moins dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous avons là vraiment le schéma type de l'exemple que nous laissons maintenant, ces gens qui auront soif de la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit que les gens s'y rendront en foule, afflueront. Les synonymes, c'est en grand nombre, en abondance, ou encore déferler, un peu comme on parlerait d'eau qui déferle d'une montagne ou de choses qui déferlent, d'une avalanche qui déferle. Vous voyez, cette impression de mouvement, ce n'est pas des gens qui vont entrer dans la pâte, mais ils y vont avec appétit, ils ont faim et soif de la parole de Dieu. Ça, ce sera pendant le millénium, ça, ce sera pendant ce royaume que nous annonçons. C'est la mission que Christ nous a confiée, d'annoncer cette bonne nouvelle. Le monde aura soif de la vérité de Dieu, avec une soif que nous, en tant que sel de la terre, nous aurons en partie contribué à créer par notre exemple. Ils se souviendront alors, ah oui, c'était pas mal ce monsieur, cette dame, etc. Et là, ils comprendront un peu ce que c'est que vivre comme un chrétien, si du moins nous le faisons maintenant. Parce que la question qu'on peut se poser, qu'en est-il maintenant ? Est-ce que notre exemple rend à notre entourage un témoignage positif de la voie de vivre de Dieu ou se disent-ils, si c'est ça la chrétienté, si c'est ça être le chrétien, non merci, j'en veux pas. Chacun de nous a la réponse. Nous avons cette réponse et nous avons cet exemple à donner. Un autre aspect du sel, une de ses vertus spécifiques, c'est que c'est un aliment de conservation. C'est un aliment qui était utilisé pour conserver les aliments. Et même dans les pays où il fait froid, on peut voir que dans les pays nordiques et tout, on a de la morue salée et tout ça, bien qu'il y ait du froid, mais en été, c'est sûr qu'il fait certainement plus chaud. Le sel a toujours été utilisé comme conservateur. Cette notion de conservation, on va l'analyser sur au moins deux angles. Nous avons vu tout à l'heure que le sel préservait la vie. Cette espèce de conservation, on va le voir avec une analogie spirituelle. En tant que chrétiens, nous jouons donc un rôle essentiel dans la préservation de la vie sur terre. Vous allez dire, comment ça ? Tac, tac, en réfléchissant un peu. Allons donc dans Matthieu 24. Quand les disciples interrogent le Christ sur les signes précédant son avènement, au verset 21, le Christ leur dit, car la détresse sera alors si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. En quoi intervient le chrétien là? Il nous dit, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le fait qu'il y ait des chrétiens sur terre préserve la vie complète. Parce que le Christ nous dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et s'ils n'étaient pas abrégés, toute vie disparaîtrait sur terre. Et ça, ce n'est que la répétition de ce que nous voyons dans Genèse 6 à l'époque de Noé. À partir du verset 9, on nous dit que Noé était un homme juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Ensuite, nous voyons le verset 22. On nous dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc nous voyons que c'est un homme qui marchait avec Dieu. Plus loin, il nous est dit au verset 37 que la terre a été protégée à cause de Noé. La terre n'a pas été détruite en quelque sorte à cause de Noé. On dirait grâce à Noé. Et c'est exactement ce parallèle que je voulais faire entre le chrétien qui va, les chrétiens, donc ce petit troupeau que Dieu utilise, et l'époque de Noé. Il y a juste ce parallèle en disant que, nous allons le lire dans 1 Pierre, alors 1 Pierre 3:20, où Pierre l'exprime clairement. Il nous a dit que Christ était allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois étaient incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes furent sauvées à l'époque de Noé. 2 Pierre 2,5 le confirme également, où il nous a dit, « Car Dieu, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de justice. » Et là, Noé est à ce titre de prédicateur de justice, exactement ce que fait l'Église en ce moment. Prédicateur, c'est annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, que ce travail que nous avons à faire, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle, c'est cette prédication. Et Paul lui-même, 1 Corinthiens 9, nous allons voir comment Paul voyait sa mission. 1 Corinthiens 9, au verset 18. 1 Corinthiens 9, verset 18. Il dit, « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Paul était un prédicateur, nous voyons son travail, nous voyons le travail de Noé qui est un prédicateur de justice, nous voyons que l'Église prêche cette bonne nouvelle du royaume, non pour convertir les gens, mais en tant que témoignage, comme il est dit dans Matthieu 24, 14. Et ça préserve le monde. Nous sommes le sel de la terre, nous préservons ce monde, car en tant que sel de la terre, à cause de notre présence, la vie sur cette terre ne sera pas complètement effacée. Le sel, il a bien d'autres usages aussi. Nous avons vu que 3% était utilisé dans l'alimentation. Mais nous pouvons voir aussi d'autres analogies, à part tire de Matthieu 5, 13, nous pouvons voir beaucoup d'analogies. Nous allons prendre quelque chose, nous avons parlé tout à l'heure de purification. Nous allons voir dans 2 Rois 20. Alors, 2 Rois 2 au verset 20. C'est un contexte très particulier où il y avait de l'eau qui était complètement polluée, impropre à la vie. 2 Rois chapitre 2 au verset 20. Au verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, donc il fait bon vivre ici, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alors Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'avait prononcée Élisée. Vous voyez donc que le sel sert à purifier. Nous avons vu tout à l'heure l'analogie avec les mains pures, le cœur pur, la conscience pure, les pensées pures. Mais là, c'est du physique. Là, nous voyons que le sel purifie à ce niveau-là. Nous avons vu aussi tout à l'heure que les germes ne peuvent pas se développer dans le sel. Donc, c'est un aliment purificateur. Allons dans Ézéchiel 16 aussi. Ézéchiel 16, au verset 4. Alors, le contexte du chapitre d'Ézéchiel 16, c'est Dieu qui compare Jérusalem à une prostituée en lui disant où je t'ai pris, ce que j'ai fait de toi et comment tu m'as abandonné. Et juste quand il lui parle de sa naissance, il lit au verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'avait pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour te purifier, tu n'as pas été frotté du sel. C'était certainement une technique à l'époque pour peut-être donner des sels minéraux aux enfants, aux nouveau-nés. Je ne sais pas trop, mais je n'ai pas pu faire la recherche dessus. Mais en tout cas, Dieu utilise ce symbole à la naissance de Jérusalem, sa ville fétiche, on va dire, en lui disant tu n'avais pas été frotté de sel. Donc ce serait une bonne chose que d'être frotté de sel. Et nous avons vu donc que cela purifie. On a vu l'exemple de ce que Samuel a donné. Ce que Dieu a fait, il a purifié Jérusalem, qu'il a bien sûr abandonné après en devenant une prostituée sur le plan spirituel. Mais il utilise justement cet argument du sel à la naissance. Le sel aussi était utilisé pour sceller des alliances. Nous avons vu tout à l'heure que le sel était versé sur les offrandes. Mais allons dans Nombre 18 aussi. Il y a un passage important qui consiste à voir comment le sel était utilisé, même verbalement. Nombre 18, au verset 19. Et c'est là l'intérêt de faire les études ou les recherches avec plusieurs versions. Là, je vais vous donner la version seconde que j'ai sous les yeux, mais aussi d'autres versions que j'ai retrouvées. Alors, Nombre 18, au verset 19. Il leur a dit, je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et ta postérité avec toi. Dieu donne à Lévi donc ses offrandes, etc. La version seconde dit que c'est une alliance inviolable. La version Neuchâtel dit que c'est une alliance de sel. La version Darby, parle de sel. La version Osterval parle d'alliance incorruptible. Et nous voyons donc que cette alliance est inviolable et à perpétuité selon la version seconde. Mais quoi qu'il en soit, ce mot sel est utilisé pour exprimer quelque chose avec Dieu, comme notre baptême. Notre engagement doit être inviolable, incassable, indestructible entre amis, on dirait, comment dirais-je, littéralement. Allons dans Acte 1 aussi. Ça, c'est si on regarde dans Acte 1, ce verset pourrait passer de façon tout à fait inaperçue parce que il a été traduit dans toutes les versions, c'est pareil. Mais quand on va dans le texte original, on trouve une notion de sel. Et là, Acte 1, nous savons que c'est juste avant l'ascension du Christ, quand il partageait un moment, on va dire, ce dernier moment d'intimité avec ses amis. Au verset 4, on nous dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Et l'expression « Comme il se trouvait avec eux », le mot original grec, c'est « sunaliso », qui veut dire « partager le sel ». On pourrait dire « comme il partageait le sel ». Ce mot a été traduit dans toutes les versions par « être ensemble », comme il demeurait avec eux. Mais littéralement, le mot veut dire « partager le sel. » Donc, notre alliance avec Dieu, lors du baptême, doit être de sel, incassable, indestructible. Et ce faisant, nous avons le privilège de considérer Dieu aussi comme notre ami. Ce sel, donc, qu'on a vu, permettait la conservation. Et nous, grâce à ces chrétiens, la vie sur terre est préservée. Elle le sera lors du retour du Christ. À cause des élus, ces jours seront abrégés, il nous est dit. Mais nous savons que le sel aussi préserve la vie pour les animaux. On nous parle, par exemple, dans des reportages d'animaux qui parcourent, notamment en hiver, des distances énormes pour rechercher du sel. Et par exemple, en Laponie, les hommes font des enclos et ils utilisent de l'urine sur les arbres. C'est senti à des milliers, à des quelques kilomètres par les rennes qui viennent chercher à prendre les sels minéraux en léchant ce sel. Et automatiquement, l'enclos est fermé. Donc, nous voyons qu'ils récupèrent des animaux. C'est un piège pour eux, mais c'est que ces animaux ont besoin impérieux de sel. Le sel, pour nous, c'est la vie, en quelque sorte. Et si nos globules rouges n'en contenaient pas, nous allons faire des analyses sanguines et automatiquement, il y a le taux d'urée et d'autres taux qui sont analysés. Mais s'il n'y avait pas cette quantité de sel au niveau de nos globules rouges, nous mourrions. Donc, le sel nous préserve la vie, tout comme nous avons vu cette analogie spirituelle du chrétien qui préserve la vie au niveau de la terre entière. Mais nous devons aussi prendre au sérieux la deuxième partie du verset de Matthieu 5, 13. Mais si le sel perd de sa saveur, comment se fait-il que le sel puisse perdre de sa saveur? Cet avertissement, que signifie-t-il pour les chrétiens? Nous avons vu que le sel, c'est un minéral durable. On parle de mines de sel qui sont là depuis des milliers d'années, puisque les hommes vont se servir. Il n'y a pas de création de mines de sel en ce moment. On peut utiliser le sel des marais salants, mais les mines de sel sont là depuis des millénaires et nous allons les utiliser régulièrement pour puiser du sel où il n'y a pas la mer. Même le sel raffiné, on nous dit, celui qui a été modifié chimiquement pour nos aliments et tout, il peut être stocké pendant de très longues périodes sans qu'il bouge, sans qu'il soit altéré. Il conserve sa saveur. Il peut devenir dur ou grumeleux, mais il reste salé. Et si on le dilue, l'eau, elle est salée. L'eau de mer contient 30 à 40 grammes par kilo d'eau de mer. Et à la mer morte, nous trouvons 275 grammes par litre d'eau. Ce qui fait que les gens peuvent rester un petit peu assis en flottant. Mais même si le sel disparaît physiquement, il est dissous dans l'eau, l'eau reste salée. On goûte l'eau et on retrouve cette saveur salée. D'ailleurs, quand on prépare nos aliments, très souvent, des pâtes ou du riz, on fait fondre le sel d'abord. On ne voit plus le sel, mais il est bien là et c'est toute une question de dosage, bien sûr. Même si on le soumet à des extrêmes températures, jusqu'à 800 degrés à la température à laquelle ils font, ils gardent des capacités physiques. Alors, qu'est-ce qui peut altérer le sel? Le Christ parle bien du sel qui perd sa saveur. On nous dit que ce sont des réactions chimiques avec une autre substance. S'il est, pour ainsi dire, contaminé par une influence extérieure ou une dilution extrême. Mais vraiment, ce qui va vraiment faire perdre au sel sa saveur, c'est une réaction avec l'extérieur, avec quelque chose qui n'est pas en lui. Lui-même, il ne bougera pas. C'est quand il est attaqué par une autre substance chimique ou par le temps, mais à très, très, très long terme. Le sel qui était utilisé à l'époque du Christ était du sel gemme, souvent naturel, celui qu'on trouve dans des carrières. La définition plus exacte serait du sel fossile extrait des mines. Alors, quand il est exposé au vent, à la pluie et à l'air, qui porte d'autres polluants, entre guillemets, il pourrait perdre sa saveur, ce sel. Mais la recherche qui a été faite dit que le sel qui est plus proche de la roche, nous avons parlé tout à l'heure de mines de sel, le sel qui est plus proche de la roche est protégé et conserve sa saveur. Vous voyez tout de suite l'analogie, le parallèle spirituel, en disant que Christ est notre rocher, en restant proche de lui, on garde notre saveur. Donc le sel qui est plus proche de la roche dans la mine reste et conserve sa saveur. Nous avons dit que seuls des contaminants extérieurs pourraient changer le sel. Que nous dit le Christ? Allons dans Jean 17. Jean 17 au verset 15. Ce sont des passages qui sont lus au moment de la Pâque en général. Jean 17 au verset 15. En priant son Père, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Au verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Le Christ nous fait remarquer que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Allons dans Apocalypse 18 aussi pour voir cette allusion de façon plus approfondie, avec vraiment un avertissement. Apocalypse 18 au verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Nous sommes du monde, mais pas dans le monde. On est appelé à sortir du monde, tout en étant dans le monde. Donc, ne pas avoir ces mêmes fréquentations, ces mêmes attitudes que le monde, tout en vivant dans le monde, en étant au contraire des exemples, en étant une lumière et même le sel de la terre, en créant cette soif dont nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi de la jalousie et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans ce monde, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver les soucis de ce monde, la séduction des richesses, l'invasion d'autres convoitises. Pensez à la parabole du semeur, ces grains qui sont étouffés par les soucis de ce monde et tout. Le chrétien peut devenir stérile, il peut perdre de sa saveur à ce niveau-là. Et nous sommes, comme le dit dans Luc 14, 35, le Christ, il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier, il est bon à être jeté dehors. Nous ne devons pas arriver à ce stade. Faire attention à ce que nous faisons, ce que nous fréquentons. Nous ne pouvons pas sortir du monde, mais nous pouvons faire le tri de nos conversations, de nos fréquentations, de notre attitude. Nous avons des choix à faire. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, nous a-t-il dit, dès Deutéronome. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons ces possibilités de, tout en étant dans le monde, de ne pas être du monde. Avez-vous connu, vous, ou nous autres, connaissons-nous, des membres qui ont quitté l'Église, qui ont perdu leur saveur, qui ont quitté le corps du Christ, qui se sont laissés contaminer par ce monde? Peut-être ont-ils été obsédés par l'argent, peut-être se laissent-ils submerger par les épreuves de la vie quotidienne, ou peut-être ont-ils écouté des arguments de dissidents ou de détracteurs qui ont décidé que ce n'était pas l'Église de Dieu, que ce n'était plus pour eux l'Église de Dieu. Quelles sont nos plus fortes préoccupations à nous, nous autres chrétiens? Est-ce notre travail, nos problèmes familiaux, la réparation de la maison, de la voiture, le désir d'être marié, la solitude ou une liste interminable de choses que nous aimerions acheter ou posséder? Et ça, le plus important, certains de ces besoins sont légitimes. Je parlais d'être marié ou de réparer la voiture ou la maison, c'est peut-être légitime. Mais est-ce que cela notre préoccupation première? Ou est-ce la vocation céleste de Jésus-Christ, son œuvre en ces temps de la fin? Et notre part dans cette œuvre, pas spécialement en tant que ministre, que diacre, qu'évangéliste ou tout, mais en participant, en vivant vraiment au sein de cette congrégation, en vivant, en participant par nos dîmes, pour nos offrandes, à cette œuvre que fait le Christ à travers nous tous, pas seulement le ministère. Alors, est-ce cette vocation, l'œuvre des temps de la fin, notre part, et aussi le développement de l'idéal caractère et juste qui plaît à Dieu? C'est à cela que nous avons été appelés. Nous avons vu que ce sel de la terre devrait, en vivant en tant que sel de la terre, nous devrions avoir ces vies heureuses, pas d'argent spécialement jeté par les fenêtres, mais quelque chose, une vie heureuse, une vie abondante, pas une vie de superflu, mais une vie abondante. Si nous sommes plus concernés par la première énumération, le travail, les problèmes familiaux, les problèmes avec les collègues, les réparations de maisons, de voitures, etc., si nous sommes plus concernés par cela que par la deuxième liste, en parlant de la vocation du chrétien, arrêtons-nous, examinons-nous nous-mêmes à ce moment-là. Repentons-nous, demandons à Dieu la force de reprendre le droit chemin. Car là, à ce moment-là, on peut glisser très facilement. Nous sommes donc le sel de la terre. Mais ce sel, nous l'avons vu, peut perdre sa saveur par la contamination d'influences extérieures. Méfions-nous des influences extérieures. Nous avons la parole de Dieu, nous avons son ministère, nous avons les frères et sœurs, nous avons le conseil, nous avons besoin de conseil, nous pouvons nous rapprocher d'un ministre, d'un frère. Vivons en harmonie au sein de la congrégation. Ne croyons pas que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Évitons les influences extérieures. Dieu veut que nous lui obéissions et que nous soyons dans son royaume. C'est pourquoi nous avons été créés, c'est pourquoi nous avons été appelés. Rien d'autre ne compte. Rien ne nous rendra plus heureux. Soyons donc le sel de la terre et appliquons-nous à ne pas perdre notre saveur.